vous êtes habitués. C'est pas très grave. Mais j'espère vraiment que ce que le Seigneur me partage d'abord à moi, hein, parce que c'est d'abord moi qui me fait bousculer. Et puis voilà, je vous partage comment je suis bousculé, c'est bon ? Ah, comment que ça se fait ? Ça y est. Hop, voilà. Le titre du message, c'est « On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël ». On va le lire. Saül, son fils Jonathan et le peuple avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Mixma. On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Donc chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des pioches et des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. Je ne sais pas ce que ça vous fait de lire ça, mais il faut juste se remémorer que de tout temps, et aujourd'hui encore, les Philistins ont toujours été les ennemis d'Israël. Et quand je dis aujourd'hui encore, c'est parce que la bande de Gaza, c'est là le pays des Philistins, entre autres, et que le Hamas est toujours pour la destruction d'Israël. Je ne sais pas ce que ça produit chez vous de savoir qu'on ne trouvait, pas de forgeron dans tout le pays d'Israël, parce que c'était une volonté des Philistins, pourtant moins nombreux que ceux d'Israël. Moi, je trouve que cette histoire est surprenante, surréaliste, incroyable, mais vrai. Comment se fait-il qu'Israël n'a plus de forgeron ? Comment se fait-il qu'il laisse cette partie de la vie courante, surtout, on va dire que Israël, en ce temps-là, c'était très rural. Comment se fait-il qu'il laisse à ses ennemis de toujours le monopole de la fabrication et du service après-vente, de leurs outils agricoles et des armes de guerre? À minima, c'est de l'inconscience. Mais à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pire que ça. Pour prendre un exemple de l'actualité, il y a quelques semaines, on ne trouvait pas en France de masques, parce que la Chine en avait le monopole. Parce qu'on avait laissé la Chine avoir le monopole. Parce que des usines fonctionnant sur notre territoire avait été dépecé, on va dire. Je pense à une particulièrement en Bretagne. Et les outils, les machines avaient été détruites, etc., pour empêcher les gens de produire des masques. Et le monde entier a été, prisonnier du monopole des Chinois. C'est un peu cela qui se passe. Et finalement, les Chinois, forcément, ils ont pu multiplier... Ils ont pu multiplier le prix de vente par 2, par 3, par 5, au plus offrant. Avec des conséquences assez compliquées à vivre. En temps normal, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais en temps de crise, on voit que ça pose un vrai problème. Ce récit m'oblige à poser des questions, et si jamais vous avez de quoi noter les questions, ne vous gênez pas. Pourquoi et comment les Philistins ont pu spolier, dépouiller Israël de l'art de la ferronnerie? Parce que c'était une volonté de leur part. Ils ont dit, on va faire en sorte que Israël ne puisse plus produire des outils agricoles et des armes. Et nous l'avons lu, à chaque fois, il fallait descendre chez les Philistins, même pour le service après-vente. C'est déconcertant, mais si on place ça sur le plan spirituel aujourd'hui, on voit que c'est aussi déconcertant que ça. Pourquoi et comment le peuple d'Israël a été aussi stupide, et je suis gentil, comment le peuple d'Israël a été aussi stupide pour se laisser faire? Je ne sais pas, j'essaye d'imaginer, comme aujourd'hui, c'est forcément... Les produits, j'ai rien contre les Chinois, mais forcément c'est moins cher en Chine qu'en France. Et il n'est pas impossible qu'au fur et à mesure, les Philistins aient proposé leur service pour du moins cher. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Sur place, ils le font bien, et voilà... Donc on va acheter aux Philistins. Pourquoi les Israéliens n'ont pas réfléchi sur les conséquences de se faire spolier ce métier de forgeron, en se disant, par exemple, mais... si ce sont les Philistins qui ont le monopole, il suffirait que les Philistins disent « Maintenant, on n'affûte plus vos pioches, vos bêches, vos outils, vous allez être dans la peine. » Et puis, en fait, ce que ça produit, ce que ça pourrait produire, c'est un manque de... un manque de nourriture, de moisson, puisqu'ils n'ont plus les outils pour. Comment se fait-il que les Israéliens n'aient pas réfléchi au fait que leurs ennemis de tous les jours, ou de toujours, qui se sont montrés des bons amis avec qui commercer, comment se fait-il que les Israéliens n'aient pas dit mais on risque d'avoir un jour un problème de, sinon de famine, en tout cas de difficulté de cultiver nos terres parce que nous n'avons pas les outils. Pire encore, et c'est bien ce qui pourquoi le texte est là, c'est qu'il y a la guerre entre eux. Et puis il se trouve que tout d'un coup, le peuple d'Israël se dit mais on n'a pas d'armes. Il n'y a que Saül, le roi, et son fils Jonathan, qui avaient lance ou épée. Les autres, les Philistins, ils en avaient. Hein. Quelles étaient les armes des Hébreux, d'Israël? Non? Non, c'était des lance-pierres. Lance-pierres. Lance-pierres à côté des épées, des lances, des flèches. Là, on dit Dieu, tu dis Dieu, mais c'est parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Et, mais. Ils n'étaient pas sortis d'affaires. C'est tellement dérisoire d'aller combattre avec des lance-pierres quand en face, il y a une armée qui est autrement armée. Certaines traductions, mais je l'évoque juste comme ça en passant, certaines traductions évoquent le prix à payer pour le service après-vente, qui finalement était devenu assez cher. Ben forcément, ils avaient le monopole. Vous pouvez leur faire payer. Allez, autre question. C'est la foire aux questions. Si les Philistins avaient le monopole, comment est-ce que les anciens forgerons d'Israël ont pu transmettre leur savoir? Ben, ils ne l'ont pas transmis. Il n'y avait plus de possibilité de transmission du savoir. Et quand on sait aujourd'hui, et qu'on voit des fois, où on entend les problèmes de « Ah ben, tel métier a disparu », on essaye de rechercher, de retrouver dans les archives... faire renaître certains métiers qui ont disparu, effectivement. Ça pose, mais j'en parlerai pas ce matin, ça pose un vrai problème de transmission. Comment est-ce que dans l'Église, nous prenons en compte la transmission ? Comment se vit-elle? Est-ce qu'elle se vit d'abord? Et comment se vit-elle? Mais c'est... Voilà, je vous balance ça, vous notez, puis pendant la semaine, vous réfléchissez. Nous ne pouvons pas... vous savez bien, on ne peut pas faire l'impasse de ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Sommes-nous comme le peuple d'Israël? Sommes-nous dans la même configuration de spoliation? Avons-nous consenti d'une manière délibérée? Est-ce que nous avons consenti à donner à l'ennemi ou à la société des choses que nous devions précieusement garder sous notre responsabilité? Si je vais plus loin, en tout cas, ça a été des questions posées comme ça, dans mes temps de prière aux ardoisières. Bernard, qu'as-tu consenti ? Qu'as-tu accepté de te faire voler ? Dans quel domaine dans ta vie ? Pourquoi ? Et comment en es-tu arrivé là ? C'est pas simple hein, comme question, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce genre de questions. Parce qu'on n'a pas non plus envie d'y répondre. Communauté du Colombier, que te manque-t-il aujourd'hui que tu as perdu, qui a été spolié, que tu as accepté de remettre, de donner? On peut faire la même chose hein, en étant église d'Angers, avec toutes les communautés réunies. On peut faire la même chose ou le même questionnement avec l'Église de France, comme avec l'épouse du Christ par le monde. Donc aujourd'hui, je ne voudrais pas être trop long. Je ne voudrais pas prendre pléthore d'exemples. Je vais juste en prendre un. Parce que sinon, c'est trop dilué, c'est trop long. Mais c'est pour ça qu'il faudra qu'on y revienne. Je voudrais prendre comme exemple un thème très bateau, l'amour. Église d'Éphèse. D'Éphèse, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être qu'il me le dit, Bernard, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être qu'il le dit à notre communauté. Le mot grec pour premier, ton premier amour, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ce mot grec, c'est le même que celui utilisé dans la parabole du qu'on appelle le fils prodigue. Vite, apportez la robe, la première, et habillez-le. Je trouve que c'est assez intéressant comme parallèle. Que ce même mot de la première robe, la robe la plus importante, la plus belle, dans la bouche de Jésus, c'est le Père qui remet ou qui demande à ce que le Fils qui revient ou qui vient après une vie de patachon puisse être habillé, mais pas habillé juste avec une tunique. C'est habillé avec la première, avec la plus belle, peut-être la plus chère, la plus précieuse. Rappelez-vous de Joseph, le fils de Jacob. Les frangins, ils n'étaient pas contents parce que Joseph avait la plus belle tunique. Parce qu'il était le préféré de son père. Jacob aime Joseph plus que les autres enfants, ce qui n'est pas bien. On va le gronder. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé, ou magnifique, ou splendide. Une tunique princière, selon les traductions. Église d'Éphèse, tu avais été revêtu d'un habit, d'une tunique précieuse, de valeur. Cette tunique s'appelait l'amour. Tu en as été habillé. Mais cette église d'Éphèse, mais moi, mais peut-être la communauté du Colombier l'a égaré, l'a perdu. Non, elle ne l'a pas égaré. Elle n'a pas perdu non plus. L'église d'Éphèse n'a pas perdu l'amour. Il ne l'a pas égaré non plus. Il l'a abandonné. Pas pareil. L'abandon, c'est un acte volontaire, fait avec conscience. Avec conscience, ils ont abandonné l'amour, le premier, le plus important, dont ils étaient revêtus. Abandonner, c'est renoncer à quelque chose, ne plus en vouloir, le laisser définitivement. Quand on abandonne le péché, c'est vraiment très chouette. Par contre, quand on abandonne son animal sur la route des vacances, c'est odieux. Lorsqu'on abandonne son enfant, c'est dramatique. Abandon, fait avec conscience, volontairement. Autre question, vous allez avoir du boulot hein, cette semaine si vous voulez les reprendre. Puisque l'église d'Éphèse a abandonné cet amour, elle l'a abandonné au profit de quoi ? Par quoi l'a-t-elle remplacé ? Parce que il faut bien qu'on soit vêtu de quelque chose, sinon on est nu. Il fallait bien que l'église d'Éphèse paraisse ou ait une apparence. C'était plus l'amour premier, c'était autre chose. Si moi j'ai perdu mon amour premier, par quoi l'ai-je remplacé ? Communauté du Colombier, si tu as perdu ton amour, ton premier, par quoi l'as-tu remplacé ? À l'instar des Israélites qui ont abandonné le travail de la forge, nous avons peut-être aussi abandonné notre premier habit, qu'est l'amour. Alors, c'était pas ça que je voulais. Je pensais avoir mis ça. Allez, là, une déclaration choc. Il ne se trouvait plus personne au Colombier ayant gardé son premier amour pour le Seigneur. Waouh! Il ne se trouvait plus personne au Colombier ayant gardé son premier amour pour le Seigneur. Ce n'est pas une attestation. C'est un point d'interrogation avec deux ou trois points d'interrogation. À chacun de nous de vivre le contraire. À chacun de nous de vivre le contraire. Si c'est le cas, Par quoi avons-nous remplacé? L'avons-nous remplacé pour paraître habillé? J'ai des pistes de réponse. J'ai des pistes de réponse, mais je n'ai pas le temps de vous le dire ce matin. Et j'ai surtout envie de vous laisser vous poser vous-même la question cette semaine. Si nous avons perdu notre amour précieux, le premier, par quoi l'avons-nous remplacé? Par quoi l'as-tu remplacé? Par quoi l'ai-je remplacé? Je vais arrêter là. Il y a tellement d'autres choses. Je disais que dans ce que j'ai commencé à préparer, je me dis, oh, il y en a au moins pour un mois là. Mais ce ne sera pas possible. Donc on verra où est-ce qu'on en est dimanche prochain, parce que je voudrais continuer avec vous à nous poser des questions et à nous déranger nous-mêmes. Suite donc au prochain numéro, je vous invite à terminer par une prière. Je vais la lire, on peut après prendre un temps pour la dire soi-même personnellement. Seigneur, si nous avons abandonné notre premier amour pour toi, nous t'en demandons pardon. Que par l'Esprit Saint, nous puissions à nouveau en être revêtus, parce que ce qui compte le plus pour nous, c'est toi. Agis en nous, Seigneur, afin que soit préservée une union intime et profonde avec toi. Je voudrais juste un temps de silence. Chacun fait ou non cette prière, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais que nous puissions quelque part répondre, au moins dans une disponibilité de cœur au Seigneur.